Encore une dégradation météo avant un mieux attendu ce week-end. Plusieurs communes de la côte Est ont suspendu le transport scolaire. Le Betting Show de nouveau opérationnel, il reprendra la mer demain. Les avions d'Arcale sont eux toujours cloués au sol en raison du mouvement des collectifs d'usagers dans les îles. Cinquième jour de guerre de la coalition américano-israélienne contre l'Iran. Selon le président américain, le pouvoir iranien se fait complètement détruire. En métropole, deux nouvelles interpellations dans l'affaire du meurtre de Quentin, lynché à mort à Lyon. 7 personnes ont été déjà mises en examen. Et puis dans la page de sport du football, avec la suite des quarts de finale de la Coupe de France, qualification ce matin de Nice et de Toulouse qui ont sorti respectivement Lorient et Marseille. Les deux matchs se sont joués au tirs au but. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Le salon Foodex au Japon est le salon leader de l'alimentation et des boissons. Il a lieu dans une semaine, du 10 au 13 mars. Nous en parlerons ce midi dans les Jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu, à retrouver dès la fin de ce journal. Calédonie exportateur de produits locaux d'exception, Taishi Stani Furukawa est sur place avec un stand sur le pavillon français. Il sera en direct depuis Tokyo. Nous serons également en plateau en compagnie de Dominique Lefebvre, le patron des cacaos du Pacifique, et de Candice Levet, conseillère internationale à la CCI. Des Jeudis de l'économie à retrouver dès la fin de ce journal. La météo est à la une aujourd'hui avec une nouvelle dégradation. La vigilance orange est en effet maintenue ce jeudi sur une partie de la Grande Terre. Léo Fichou, vigilance qui a des conséquences.
Oui, depuis hier, Météo France NC émet des vigilances fortes pluies et orages sur l'ensemble du territoire. La nuit dernière, il est tombé au maximum 162 mm de précipitations à Ponérioin. Un cumul important mais pas exceptionnel puisque récurrent tous les 2 à 5 ans selon les spécialistes. Ce jeudi à la mi-journée, le dernier bulletin place l'ensemble des 33 communes du territoire en vigilance jaune. Cette fois, c'était orange jusque-là à 11h30, le changement donc vigilance jaune. Mais cela ne devrait pas durer, a expliqué Claude Van Royen, prévisionniste chez Météo France NC.
L'axe pluvio-orageux qui a concerné la quasi-totalité du pays cette nuit s'est progressivement décalé au sud du pays. Et même si la Nouvelle-Calédonie reste dans une masse d'air humide et instable, l'intensité des précipitations va globalement baisser pour cette fin de journée et la nuit prochaine. Des risques d'averses qui pourraient être encore localement fortes, mais avec des cumuls qui seront plus faibles que ce qu'on a eu cette nuit, et ce qui ne justifie plus une vigilance orange.
Et après la pluie, le beau temps, ou du moins une légère amélioration qui est attendue pour la fin de semaine.
Pour le week-end, pour les 3 prochains jours, c'est une amélioration globale par rapport à ce qu'on a connu. Mais néanmoins, on reste dans un flux qui se situe est à nord-est, qui est globalement humide. Donc il faut s'attendre à avoir des précipitations plutôt sur la partie est en début de période et qui pourraient toucher également le sud-ouest en fin de week-end.
Légère amélioration donc prévue pour ce week-end. Ce jeudi, les fortes précipitations de ce matin, la nuit dernière, ont des conséquences. Les internats des lycées Augustin Thi à Touau et Antoine Kella à Pointe-d'Imier sont fermés. À Wailou, c'est le lycée d'Oneva qui est complètement fermé aujourd'hui et demain. On signalera également que les transports scolaires sont suspendus pour la journée à Wailou, Pointe-d'Imier, Ponérioin et Poya. À Poya également, le service de cantine n'est pas assuré. Sur les routes, la RT1 à Pointe-Boutsud est submergée, la circulation est interrompue. Même chose sur le bac de la YM, il est à l'arrêt. Et puis on terminera à Bouraï, seuls les radiers Pantaloni et Brésil sont submergés.
Et faisons le point maintenant, Léo, sur les transports aériens et maritimes, avec une bonne nouvelle côté maritime.
Le Betticho va pouvoir reprendre la mer. Le navire de la Sud-Île a subi toute une série de réparations, des tests aussi suite à une avarie sur plusieurs moteurs. Les essais en mer ont été réalisés hier après-midi, des essais concluants, nous a dit Édouard Castin, directeur de la Sud-Île.
Les équipes en interne là, ont fait un énorme boulot pendant tous ces jours pour démonter, réviser, changer pas mal de pièces sur les moteurs de façon à ce qu'ils retrouvent leur capacité normale. Il y a eu des essais en mer assez longs d'ailleurs, il y a encore quelques réglages qui ont été effectués. Le verdict, c'est que c'est bon, on peut reprendre les rotations à partir de vendredi matin. Traversée pour les loyautés, et puis dimanche, ce sera l'île des Pins.
Le Betis prendra donc la mer demain pour un aller simple Nouméa-Marélifou. Le retour est prévu samedi. Dimanche, le Betis effectuera une rotation sur la journée à l'île des Pins. Notez qu'à la suite de ses problèmes moteurs, le Betis est un peu moins rapide. C'est pour cela que les horaires sont très légèrement décalés et adaptés. Une bonne nouvelle qui en cache une mauvaise. Les avions d'Air Calédonie sont toujours cloués au sol. En cause, les blocages illimités des aérodromes des îles par les collectifs d'usagers. À Lifou, comme à l'île des Pins, Marée et Ouvéa, les habitants sont mobilisés pour un quatrième jour consécutif. Ils attendent un retour du gouvernement.
RRB, il est 11h35.
Après 10 jours d'interdiction, la baignade et les activités nautiques sont de nouveau possibles à Nouméa. On rappelle que la ville avait pris un arrêté après l'attaque mortelle d'un requin sur un wing foiler le 22 février dernier. Ce jeudi devait donc être un jour de retour à la normale, mais la municipalité appelle à la vigilance en raison du maintien des vigilances météo pour la baignade, les activités nautiques et la pêche. Elles sont déconseillées dans la bande littorale des 300 mètres. Une mesure préventive qui n'a pas découragé quelques amateurs de pomme foil.
Le retour à l'eau, oui, mais en tout cas on a tous en mémoire ce qui s'est passé il y a un peu plus d'une semaine. Et moi en plus il y a 4 ans avec mon collègue là, qui est décédé au large des Grandes Rades là, sur son subfoil. Mais bon, on habite sur une île, il y a la mer partout autour. On est un groupe super sympa avec tout ce qui débute depuis plus ou moins long terme, le pump foiling, Dogstar. Bon, on se dit que si on reste près de la plage, c'est moins risqué que si on est dans la bande des 300 mètres où ils ont... les requins, mais c'est sûr que maintenant, quand il pleut depuis un mois, quand les eaux sont sales, quand c'est 4h, 16h, 17h le soir, bon, maintenant, stop. Il ne faut pas pousser le bouchon parce qu'un jour ou l'autre, voilà, il y a un problème et il y aura d'autres problèmes si on n'en tient pas compte.
Et à part une poignée de pump foilers qui naviguaient près du Rouf ce matin, Lansvata, et la plage de Lansvata était quasi déserte ce matin.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec la réponse à la question d'hier. 76% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que le nombre et la taille des requins qui ont été prélevés justifient la campagne menée par la province sud et par la mairie de Nouméa. Ils sont 24% à être d'un avis contraire. Et puis notre question du jour, pensez-vous que les pays européens, dont la France, doivent se joindre aux États-Unis et à Israël pour mener la guerre contre l'Iran? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31-46. Il est 11h37, une première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Élection municipale à Nouméa. Information pratique. Le scrutin se tiendra le dimanche 15 mars de 8h à 18h.
Les bureaux de vote ont été regroupés et répartis dans 8 lieux de vote à Nouméa. L'hôtel de ville, la salle de sport Wawanabou à Lansvata, la salle Jean Noyant à Lansvata, le collège Jean Lec à Magenta, le collège François Oliveau aux Portes de Fer, le groupe scolaire Marie Courtois Henriette Gervolino au 6e kilomètre, le centre culturel Kowekara, le groupe scolaire Céline Tessandier de Lobared à la vallée du Tir.
Pour connaître votre lieu de vote, contactez le 27 31 15. Consultez le site internet www.nouméa.nc ou rendez-vous directement à l'hôtel de ville. En cas de second tour, les mêmes lieux de vote seront conservés.
Ceci était un message de la ville de Nouméa.
Femmes de talent, du 6 au 8 mars, rendez-vous à la salle des expositions de Nouville pour la 19e édition du Salon des Femmes. Plus de 70 exposants, des animations gratuites tous les week-ends et des temps forts dédiés aux droits des femmes en Nouvelle-Calédonie avec les associations locales et la province sud. Salon des Femmes, du 6 au 8 mars à Nouville, programme complet sur Facebook Pacific Fair NC.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Baudin.
Une pause dans la campagne municipale sur Radio Rythme Bleu. Nous avons organisé depuis le début de la semaine 3 débats avec les communes de Païta, de Bouraille, mais aussi le Mont-Dorière. Le prochain débat, ce sera demain à midi avec les candidats en lice à Dumbéa. Notez que nous présentons les autres communes et les enjeux de ce scrutin dans nos différents rendez-vous d'information. Une année record en termes de recours. En 2025, le tribunal administratif a été saisi par de nombreux Calédoniens, notamment en ligne sur le site de Télésecours Citoyens. La juridiction a rendu 679 décisions l'an dernier. C'est ce que nous a dit ce matin son président Hubert Delesalle. Il était notre invité ce matin à 7h30.
C'était une année un peu de tous les records, puisque en 2025, nous avons dépassé le chiffre de 1000 dossiers enregistrés, donc des demandes qui nous ont été adressées. Ça n'avait jamais été atteint. Ça représente un doublement par rapport à ce dont nous étions saisis il y a 10 ans, par exemple.
Comment ça s'explique ?
Il y a différentes causes, des causes générales qu'on retrouve un peu partout en France. Il y a un accès plus simple à la justice en général. Il y a aussi peut-être une crispation des rapports sociaux, peut-être une défiance à l'égard des autorités publiques qui montre que les citoyens n'hésitent pas à contester des décisions prises par l'administration.
La société devient plus procédurière ?
Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire qu'on n'hésite pas à faire valoir ses droits. Et à côté de ces causes générales, il y a des causes sans doute particulières au territoire. Alors les difficultés sociales, économiques, budgétaires qu'elles traversent, bien évidemment, en relation en partie avec les émeutes. Et puis des difficultés un peu structurelles concernant certains services publics. Je pense par exemple à ce qui se passe au Camp Est, s'agissant des conditions de détention, qui est l'occasion pour nous d'avoir de nombreux recours.
Certaines des décisions du tribunal font beaucoup réagir. En 2025, il a notamment été question des conditions de détention au Camp Est, vous l'avez entendu, mais aussi des deux drapeaux sur les permis de conduire ou encore du litige entre les assureurs et l'État sur la gestion des émeutes de mai 2024 ou encore plus récemment le recours de PLP visant à suspendre la campagne de prélèvement des requins de la mairie de Nouméa et de la province sud. Hubert de Le Salne, le président du tribunal administratif, nous a rappelé quel était le type de litige le plus traité au quotidien.
C'est une juridiction du quotidien, proche des citoyens, des institutions et des entreprises. Nous traitons tout ce qui met en cause les relations avec des administrations globalement. Par exemple, vous voulez demander un permis de construire une maison. Le maire vous refuse. Si vous voulez contester ce refus, eh bien vous attaquez devant le tribunal administratif. C'est un exemple parmi bien d'autres. C'est notre spécificité du tribunal administratif. On a en fait trois quarts de nos affaires recouvrent trois domaines précis. Alors d'abord, la fonction publique, que ce soit de l'État ou de Nouvelle-Calédonie. Un autre quart, ça a trait à tout ce qui est relatif aux libertés publiques et aux mesures de police. Et puis un dernier quart, ça a trait à la responsabilité de l'État dans le cadre des émeutes survenues en 2024. Voilà, donc ça c'est trois quarts de notre affaire, à peu près un quart à chaque fois.
Le tribunal administratif communique ses décisions prises sur son site internet qui est évidemment consultable par tout un chacun. Présenter sa thèse en 3 minutes, c'est le défi qu'ont relevé hier soir 7 étudiants de l'école doctorale du Pacifique. Ils ont participé au concours Ma thèse en 180 secondes et ont dû capter l'attention d'un amphithéâtre rempli de personnes pour qui la biologie ou la chimie sont des sujets parfois obscurs. Hier soir, il a été question de bioconversion du chrome, d'interaction multitrophique, de métabolone de plantes aromatiques, des sujets plutôt pointus. Pourtant, après des semaines de coaching et même des cours de théâtre, les doctorants ont su convaincre leur public hier soir.
Je suis en Master 2 et je suis en stage à l'IRD. Du coup, ça m'intéressait de voir comment ça se passait de faire une thèse ici. C'était incroyable, c'est tous des excellents orateurs et du coup, c'était très intéressant de voir ça.
C'est hyper intéressant et je trouve que c'est des sujets qui sont d'autant plus importants d'actualité et aussi pour la Calédonie, quoi.
C'est très impressionnant, on n'a pas trop envie d'être à leur place parce que ça nous fait vachement stresser. Super intéressant. Dans le sens où le fait de vulgariser les sujets, ça permet d'approcher plus facilement des sujets de thèse qui sont généralement très compliqués à comprendre. Je crois qu'elle s'appelle Loesa et c'était une présentation sur la dengue. Enfin, en tout cas, ça a l'air super intéressant, ça me donne presque envie de faire une thèse.
Je trouve ça très difficile à faire, de synthétiser toute une thèse en 180 secondes. Moi, je trouve que ça a été super.
Et Adriana Louga, doctorante qui travaille sur la survie des leptospires dans les sols, a remporté le concours. Elle représentera la Calédonie lors de la finale nationale. L'actualité dans la région avec la position australienne sur le conflit au Moyen-Orient. Le gouvernement australien avait annoncé au premier jour de guerre soutenir les frappes américano-israéliennes. La ministre australienne des Affaires étrangères demande désormais à l'Iran de cesser ses frappes de riposte. Correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Penny Wong a déclaré que la situation au Moyen-Orient, je cite, est périlleuse et imprévisible. Ces dernières 24 heures, a-t-elle expliqué, le conflit s'est intensifié et s'est également étendu. Le régime iranien a attaqué au moins 10 pays de la région, y compris certains non-belligérants, et a ainsi démontré pourquoi il représente toujours une menace pour la paix et la stabilité régionale. Sa violence risque de déstabiliser davantage encore une région déjà instable, a-t-elle insisté. Nous ne voulons pas assister à une nouvelle escalade de la situation, a poursuivi la ministre. nous insistons sur la nécessité de protéger les vies civiles et nous appelons au respect du droit international humanitaire, a-t-elle ajouté, avant d'exclure néanmoins tout envoi de troupes australiennes en Iran. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et la coalition américano-israélienne semble avoir remporté des victoires importantes dans cette guerre contre l'Iran. On en parle dans la page qui suit, consacrée à l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Je cherche un appartement au calme, quartier sud, vue dégagée, proche de tout et neuf évidemment.
Ah mais c'est simple, tu veux Icon ? Caillard et Cadour Immobilier vous ouvrent les portes d'Icon, la nouvelle résidence à Motorpool. Rendez-vous samedi 7 mars de 8h30 à midi au 12 rue Velasquez. Venez visiter et trouvez le bien à la hauteur de vos exigences. Plus d'infos sur Facebook, Caillard et Cadour Immobilier.
Ceci est une publicité tout à fait normale. Elle devrait parler calmement d'une offre internet. Mais comment rester calme quand il y a jusqu'à 5 mois offerts ? Oui, 5 mois offerts ! C'est l'offre EasyStar de Lagoon du 9 février au 31 mars. Internet illimité, modem Wi-Fi 6 inclus, téléphonie VOIP pour 5500 francs TTC par mois. Et c'est sans engagement. Finalement, cette pub, elle est pas si normale. Offre soumise à condition.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité en métropole avec Jean-François Boudin.
En métropole et dans le monde et au cinquième jour de guerre contre l'Iran, la coalition américano-israélienne semble marquer des points importants. Elle a coulé un navire iranien dans les eaux internationales et poursuit ses frappes en Iran sur les installations militaires mais aussi les infrastructures aux mains des gardiens de la Révolution. Le pouvoir iranien se fait complètement détruire, a affirmé ce matin le président américain Donald Trump, qui a rappelé qu'il y avait selon lui urgence à lancer cette offensive.
Ils attaquent leurs voisins, ils attaquent dans certains cas leurs alliés, qui ne sont plus leurs alliés désormais. C'est une nation qui était hors de contrôle, qui nous aurait attaqués si on avait attendu plus longtemps. Si on n'avait pas frappé, en une ou deux semaines, ils auraient eu l'arme nucléaire. Si on n'avait pas attaqué avec les B-2 il y a plusieurs mois, ils auraient eu l'arme nucléaire. Quand des gens fous ont l'arme nucléaire, de mauvaises choses arrivent.
L'armée américaine a donc coulé un navire iranien stationné dans les eaux internationales, dans l'océan Indien. De son côté, un chasseur israélien a abattu un avion de chasse iranien lors d'un duel en plein ciel au-dessus de Téhéran. Le F-35 américain, un avion de très haute technologie, n'a pas eu trop de mal à descendre le Yak-130 iranien, un avion de combat école, combat aérien déséquilibré qui manifeste la faiblesse de la flotte aérienne iranienne, souligne le général Bruno Clermont.
Les Iraniens sont obligés de mettre en l'air des avions école parce qu'en fait, ils n'ont plus rien. Ils avaient gardé les avions de l'époque du Shah d'Iran, des vieux avions qu'ils ont réussi à maintenir en vol, à mettre de l'armement. Mais tous ces avions étaient abattus pendant la guerre des 2 jours, donc ils n'ont plus grand-chose en fait.
Les forces iraniennes aériennes et navales sont donc sur le point d'être neutralisées et la riposte iranienne a baissé en intensité. Le nombre de missiles tirés par Téhéran a reculé de 60% par rapport aux premières heures de cette guerre. En Israël aussi, la pression retombe un peu, même si les sirènes d'alerte retentissent toujours régulièrement. 2 ans après le pogrom du Hamas, la vie quotidienne est difficile, mais les Israéliens font bloc derrière leur premier ministre Benjamin Netanyahou. Le reportage de Wilfried de Villers.
Bat Yam, place forte de la droite israélienne dans la région de Tel Aviv. Ici, le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, l'a remporté haut la main aux dernières élections. C'est ce que nous rappelle Moria, convaincu que c'est le plus à même de diriger le pays en temps de guerre.
Personne d'autre n'aurait pu faire ce qu'il est en train de réaliser, stopper le programme nucléaire iranien, tuer Khamenei. Ça demande une bonne dose de courage.
Le courage d'aller jusqu'au bout dans cette guerre, voilà aussi pourquoi David soutient le Premier ministre.
Depuis le 7 octobre, il a agi, il est allé dans Gaza, il a essayé d'éradiquer le Hamas, c'est en bonne voie, là c'est l'Iran. Donc c'est un homme d'action, quand on voit que d'autres font que des paroles, ben lui il agit.
À une dizaine de kilomètres de là, en plein cœur de Tel Aviv, l'ambiance est radicalement différente. Ici l'opinion est bien plus contrastée concernant le gouvernement. Rebecca ne porte pas Benjamin Netanyahou dans son cœur, mais elle dit comprendre le combat qu'il mène contre l'Iran.
C'est pas la personne que je supporte le plus, je pense que c'est la personne qui pourrait mieux nous mener en Israël dans un moment de guerre comme ça. Israël, le peuple d'Israël sait que il y a des moments où les opinions politiques, c'est pas important. Là, il y a un moment où il faut être uni.
Une union nationale pour en finir définitivement avec la menace iranienne.
Et au cinquième jour de guerre, Donald Trump s'est entretenu pour la première fois depuis le début du conflit avec le président français Emmanuel Macron, qui a aussi échangé au téléphone avec les leaders israéliens et libanais. La France qui continue d'adopter une position prudente sur ce conflit, à l'image de l'allocution télévision d'hier, dans laquelle Emmanuel Macron a une nouvelle fois encore joué le « en même temps », ni soutien aux frappes américano-israéliennes, ni condamnation de l'élimination de l'ayatollah Khamenei. Alexandre Chauveau.
Si la France n'est pas directement impliquée dans la guerre au Moyen-Orient, Emmanuel Macron suit la situation heure par heure. Son agenda a été largement allégé pour lui permettre d'échanger avec ses homologues étrangers, notamment le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, menacé de sanctions commerciales par Donald Trump pour avoir refusé l'accès de ses bases militaires à l'aviation américaine. Le chef de l'État convoque un nouveau Conseil de défense ce soir, l'occasion de faire un point sur le déploiement des forces françaises dans la région, l'envoi d'une frégate à Chypre, annoncé hier soir, mais aussi et surtout le porte-avions Charles de Gaulle en route pour la Méditerranée, un choix dicté par l'imprévisibilité de ce conflit, selon la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
Nous restons dans une posture qui est une posture défensive, qui vise à préserver nos intérêts, nos emprises militaires, à protéger nos ressortissants et à accompagner nos partenaires régionaux qui le souhaitent à assurer leur propre sécurité.
Le gouvernement annonce par ailleurs être pleinement mobilisé pour organiser le rapatriement des Français présents sur place. Sur le plan économique, enfin, Emmanuel Macron dit vouloir agir, y compris militairement, pour établir le transit de gaz et de pétrole dans le détroit d'Ormuz, actuellement fermé par l'Iran.
Deux hommes âgés de 23 et 26 ans.
Voilà, cette guerre aura donc des répercussions économiques, notamment avec le blocage du détroit d'Ormuz dont on vient de parler, lieu de transit international. Le prix du pétrole a augmenté, ce qui implique une hausse pour l'instant maîtrisée du prix à la pompe en métropole. Mais pour éviter des abus, le ministre français de l'économie Roland Lescure réunit la nuit prochaine pour nous les pétroliers à Bercy. L'actualité en métropole et Jordan Bardella distance ses rivaux pour la prochaine présidentielle en 2027. C'est en tout cas le résultat d'un sondage IFOP qui montre que le président du Rassemblement national arriverait en tête et même largement au premier tour. Il devance même son principal rival de 20 points. Jordan Bardella est crédité de 36% d'intention de vote au premier tour contre 16% seulement à Édouard Philippe. Les autres adversaires potentiels de Jordan Bardella, Bruno Retailleau, Raphaël Glucksmann ou encore Jean-Luc Mélenchon ne dépassent pas la barre des 11%. Et si c'est Marine Le Pen qui représente le Rassemblement national pour l'élection présidentielle. Elle arrive aussi largement en tête, mais avec 2 points de moins que Jordan Bardella. Du nouveau, dans l'affaire du lynchage de Quentin, les enquêteurs pensent avoir identifié tous les participants à cette sauvage agression qui a tué le militant identitaire à Lyon. 2 suspects supplémentaires ont même été interpellés la nuit dernière pour nous. Jean-Baptiste Marty.
2 hommes âgés de 23 et 26 ans, l'un a été arrêté dans le Rhône, près de Lyon, et l'autre dans l'Aube, une opération conduite, et c'est la chose nouvelle par la SDETS, la sous-direction antiterroriste, co-saisie avec la direction de la criminalité territoriale de Lyon. L'enquête donc revêt désormais un caractère terroriste. Les 2 hommes ont été placés en garde à vue pour homicide volontaire et association de malfaiteurs. Ils sont soupçonnés d'être les 2 derniers suspects visibles sur les vidéos des témoins à participer au lynchage mortel de Quentin. On le rappelle, 7 personnes ont déjà été mises en examen dans cette affaire, 6 pour homicide volontaire. Le dernier, Jacques-Élie Favreau, collaborateur du député insoumis et triple fichier S. Raphaël Arnaud, a lui été mis en examen pour complicité de meurtre par instigation. Il est soupçonné d'avoir été le leader, d'avoir ordonné à ses comparses de mettre des coups à la victime Quentin alors au sol. Les gardes à vue de ces 2 nouveaux suspects peuvent durer jusqu'à 48 heures. Ils pourraient ensuite être mis en examen et à leur tour être placés en détention provisoire.
Et puis en bref, une nouvelle agression au couteau dans un établissement scolaire, cette fois-ci dans un collège de La Rochelle. Un élève de 13 ans a poignardé un autre élève du même âge. Il lui a porté des coups à l'épaule et au ventre. La victime est gravement blessée, mais son pronostic vital n'est pas engagé. L'agresseur, lui, est toujours entendu par la police. Il sera 11h54 dans quelques secondes, le temps d'une nouvelle pause avant de voir l'actualité sport. Et ensuite, ce seront les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Rendez-vous à l'Hyper Auto Show du groupe Jandot sur le parking du centre commercial Hyper Upaïta du samedi 28 février au dimanche 8 mars. Plus de 10 marques représentées, des nouveautés hyper exclusives, des déstockages hyper massifs, des promos hyper intéressantes, des jeux, des animations et des solutions de financement. Ce serait hyper dommage de rater ça. L'Hyper Auto Show jusqu'au 8 mars au centre commercial Hyper Upaïta, un salon organisé par le groupe Jandot. Plus d'infos sur la page Facebook. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
La rentrée est là. Nouvelles habitudes, nouveaux projets et une priorité. Protéger ce qui compte le plus. Chez Groupama Pacifique, profitez jusqu'à 20% de remise à vie sur vos contrats santé, prévoyance et accidents de la vie. Parce qu'une bonne rentrée, c'est aussi une protection qui dure. Rendez-vous dans nos agences ou sur groupama-gan.nc. Voir conditions en agence. Groupama.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
La fin de votre journal avec Jean-François Baudin.
Et le sport, que l'on commence avec le football. Après Strasbourg hier, Nice et Toulouse se sont qualifiés ce matin pour les demi-finales de la Coupe de France, Léo.
Oui, les Niçois et les Toulousains qui se sont imposés aux tirs au but. Ce matin, après un triste match nul 0-0, les Aiglons ont éliminé Lorient. L'autre rencontre a été plus prolifique. De partout entre l'OM et le TFC, au bout des 90 minutes. Encore une fois, les Marseillais s'inclinent aux tirs au but. Ça se répète pour les Marseillais, plusieurs fois éliminés donc à ce stade de la compétition. En quart de finale, une désillusion pour le milieu de terrain de l'OM, Geoffrey Kondogbia.
Je pense que tout le monde le connaît, notre sentiment. C'est de la désillusion, en même temps de la tristesse. On avait à cœur d'aller jusqu'au bout de cette compétition. On ne l'a pas fait, donc j'ai pas grand-chose à dire. Juste qu'il faut regarder devant. On a un championnat à aller combattre jusqu'à la fin. Et c'est tout, il n'y a que ça à faire.
L'OM est donc éliminé. Toulouse, Nice et Strasbourg, eux, se retrouvent en demi-finale de la Coupe de France. Demain, le dernier quart de finale opposera Lyon à Lens.
Et puis sur la scène internationale, on signalera le coup d'envoi des Jeux paralympiques de Milan-Cortina. La France compte 17 représentants, dont 4 guides, dans 6 disciplines, le parabiathlon, le curling fauteuil, le para-hockey sur glace, le paraski alpin, le paraski de fond et le parasnowboard. Le sport sur le territoire, on retourne au football, mais cette fois-ci au féminin. La sélection dispute en effet les qualifications à la Coupe du Monde.
Et c'est le troisième et dernier match de la phase de poule pour les Cagous. Les joueuses de Christelle Wanaway affrontent la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En ce moment, c'est presque la mi-temps. Il reste quelques secondes avant le coup de sifflet. Le score est de 0-0. Je rappelle l'enjeu du match. L'équipe qui s'impose décroche son billet pour les demi-finales de ces qualifications océaniennes à la Coupe du Monde. La rencontre est à suivre sur le site internet FIFA+.
Et un mot pour terminer de squash avec la grande finale ce soir de l'Open d'ouverture, un classico du squash calédonien qui opposera Nicolas Massenet de l'Olympique de Nouméa à Gaël Gosse de l'association Squash Plaisance. Une finale qui est prévue à partir de 20h10. Ça se passe à la salle Picou Sainte-Marie. Il est 11h57. Merci de votre fidélité, de votre attention.